Chapitre 13. Confiance. La bonne accueillit Émilie à son retour de la bibliothèque avec un sourire malin. « Il est encore là, Miss, dit-elle. Il vous attend. » Émilie, en entrant, aperçut Alban Maurice qui, plus inquiet que jamais, allait et venait comme un lion en cage. « Votre absence du muséum m'a fait craindre que vous ne fussiez malade, dit-il. Voilà pourquoi je suis venu. Mais j'aurais dû partir, peut-être, quand j'ai été rassuré. Je devrais partir maintenant. » « Non, non, prenez une chaise, monsieur Maurice, reprit-elle avec calme. Et écoutez ma confession. Lorsque vous m'avez quitté l'autre jour, j'avais conçu, à votre exemple, certains soupçons que j'ai voulu vérifier. » Il restait debout, la main sur le dossier de la chaise. « Des soupçons ? Contre moi ? » ?»« Contre vous. Devinez ce qui m'a occupé pendant ces derniers jours. Mais non, vous ne devineriez pas. J'ai été à une autre bibliothèque compulser les mêmes numéros de journaux que vous avez accaparés au British Museum.
« Comment ?» balbutia Alban avec épouvante.
« Oui, j'ai parcouru tous ces numéros. Voilà le secret de mon absence. Maintenant, prenons le thé. » Tout en parlant ainsi avec une parfaite tranquillité, elle se dirigeait vers la cheminée pour tirer le cordon de la sonnette. Elle ne put voir l'effet foudroyant produit sur Alban par ses paroles prononcées avec la légèreté la plus insouciante.
« Ainsi, dit-il, vous avez lu ?»«
J'ai lu l'analyse de l'enquête sur le crime de Zealand. Mon Dieu, oui. Mais ce n'est pas cela, je présume, que vous vouliez me cacher ?» L'apparition de la bonne, répondant au coup de sonnette, interrompit Émilie et donna à Maurice le temps de se remettre. « Le thé, aussi vite que possible, » dit Émilie à sa servante, « et apportez aussi le gâteau. Monsieur Maurice est-il au-dessous de votre dignité d'homme d'aimer le gâteau ?»«
Il y a quelque chose que je préfère au gâteau, » répondit-il, « c'est de comprendre ce que j'entends. »«
Qu'ai-je dit qui ait pu vous irriter ?» demanda-t-elle. « M'en voulez-vous de ma curiosité féminine ? Êtes-vous fâché que je sois allé sans vous prévenir à la bibliothèque de la cité ? J'en ai été assez puni puisque j'y ai perdu mon temps. »
« Ah, vous y avez perdu votre temps ? » répliqua-t-il tout interdit.
« Sans doute, mais j'en ai rapporté du moins une conclusion utile. »
« Quelle conclusion ? » ?»«
Monsieur Maurice, nous devons des excuses à Miss Risbrook. » La surprise d'Alban, muette jusqu'alors, éclata en entendant ces derniers mots.
« Que voulez-vous dire ? » s'écria-t-il.
On apportait le thé. Émilie n'eut pas le temps de répondre. Elle remplit les tasses, coupa le gâteau et en présenta une tranche à Alban qui n'y fit même pas attention. Elle continua. « Nous avons été tous deux fort injustes pour Miss Risbrook. Cela m'a frappé quand j'ai lu sa déposition dans le procès-verbal du crime. C'est mon nom, le nom de Brown, qui a, naturellement, frappé la pauvre femme en lui rappelant le meurtre commis dans son auberge. » Elle n'a pas réfléchi que ce nom de Brown est commun à quelque 10 ou 12 000 de nos concitoyens anglais, dont un bon 20e porte aussi le prénom de James. Je sais, moi, par ma tante, où et comment est mort mon bien-aimé père, mon James Brown à moi, et qui n'est pas mort à Zealand, et qui n'est pas mort par un crime. Mais Miss Risbrook, en lisant l'inscription de mon médaillon, a dû aussi être saisie par la coïncidence des deux dates du décès de mon père et de l'assassinat de son malheureux homonyme. » Alban Maurice taisait comme abasourdi. Ainsi, la jeune fille, même après la lecture des journaux, avait gardé son inaltérable confiance dans la parole de sa tante. Ainsi, son âme candide n'avait pas admis une minute la possibilité d'un mensonge de la sœur de son père. Alban la regardait, incertain, troublé, sans prononcer une parole. Mais voilà qu'elle reprit en posant sa cuillère. « Dès demain, je vais écrire à Miss Risbrook. » Oh, pour le coup, Alban eut un sursaut.
« Vous allez écrire à cette femme ? » s'écria-t-il.
« Certainement. »
« Oh, non, non, ne faites pas cela. »
« Pourquoi donc ?» Il était trop tard pour appeler les paroles échappées. Que pouvait d'ailleurs répondre Alban ?
avouer que non seulement il avait lu ce même rapport de police, mais encore qu'il l'avait copié avec soin pour le relire et en peser les moindres détails, était maintenant impossible. La tranquillité de la jeune fille dépendait de son silence. Il murmura donc d'une voix indistincte « Pourquoi vous ne devez pas écrire à Mistress Rook ? Eh, mais vous avez bien vu à quelle femme vous aviez affaire !» Ce n'est pas une raison pour ne pas réparer envers elle une injustice. Elle est mal élevée et m'a paru tout à fait sans scrupule. Elle pourrait faire de votre lettre un usage imprévu et vous auriez lieu de le regretter. Est-ce là tout? N'est-ce pas suffisant? Pas pour moi, je l'avoue. Quand il m'est arrivé d'être injuste envers quelqu'un, quand je sais que je lui dois une réparation, je ne m'arrête pas à la question de savoir si cette personne a, oui ou non, des manières vulgaires. La patience d'Alban n'était pas encore épuisée. « Je vous donne un conseil que je crois bon, » dit-il doucement, « et je vous le donne à coup sûr, dans une intention dont vous ne pouvez douter. Croyez-moi, n'écrivez pas à cette femme. Je ne me trompe pas sur son compte, soyez-en sûr. » « Bref, dit-elle, je dois admettre que les jugements portés par vous sont infaillibles. » En ce moment, un coup de sonnette retentit à la porte du cottage, mais elle était toute animée et n'y prit pas garde. « Je n'ai aucune prétention à l'infaillibilité, dit Alban. Seulement, rappelez-vous que je possède quelque expérience. Le malheur veut que je sois beaucoup plus âgé que vous. » « Oh, si la sagesse se mesure au nombre des années, répliqua-t-elle vivement, nous avons votre amie, Miss Redwood, qui est d'âge à être votre grand-mère. Et elle aussi, elle soupçonnait Mistress Rook, et de quoi donc? De meurtre, ni plus ni moins, parce que la pauvre femme ne s'était pas souciée d'être la voisine de chambre d'une vieille fille quinteuse. « Parlons d'autre chose, je vous prie, dit Alban, mécontent d'elle et de lui-même. » Elle lui lança un coup d'œil moqueur. « Êtes-vous à bout d'arguments? Est-ce là votre façon de vous tirer d'affaire ?» Il commençait à être plus à bout de patience que d'arguments. « Votre intention est-elle de me fâcher? Je n'aurais pas cru cela de vous, Émilie. »« Émilie ? » répéta-t-elle d'un air surpris. Il sentit que sa familiarité était inopportune, mais il ne sut point repousser le reproche avec calme. Je pense à Émilie sans cesse. J'ai une affection profonde pour Émilie. Ma seule espérance dans la vie, c'est qu'elle y réponde un jour. Mon enfant, ne suis-je pas excusable d'oublier le Miss quand vous me tourmentez à plaisir? Tout ce qu'il y avait de tendre dans le cœur de la jeune fille répondit à cet appel. Elle allait parler, exprimer ses regrets. Mais il ne lui en laissa pas le temps. Une fois blessé, un homme doux et généreux est lent à s'apaiser. Il se leva brusquement en disant « Je m'en vais, cela vaudra mieux. »« Comme il vous plaira, » répondit-elle, fâchée à son tour. Et elle ajouta « Que vous partiez ou que vous restiez, monsieur Maurice, j'écrirai à Mistress Rook. » Le coup de sonnette, auquel on n'avait pas fait attention, fut suivi d'un visiteur. C'était le docteur Holliday. Le docteur ouvrit la porte juste à temps pour saisir les dernières paroles d'Émilie. « Qu'est-ce que c'est, dit-il, que cette Mistress Rook, dont vous prononcez le nom d'un ton si animé, ma chère Émilie ?»« C'est une personne fort respectable, femme de charge chez Sir Gervis. Vous n'avez pas besoin de prendre un air dédaigneux, monsieur Holliday. Elle n'a pas été toujours domestique, elle tenait l'hôtel de Zealand. » Le docteur, en train de poser son chapeau sur une chaise, se redressa brusquement. Le nom de Zealand éveillait en lui le souvenir de l'imprimé et de la visite de Miss Jethro. « Mais pourquoi vous échauffez-vous à propos de cette femme » dit-il. « Parce que je déteste l'injustice et que monsieur que voilà déteste injustement Mistress Rook. Permettez-moi, monsieur, de vous présenter l'un à l'autre. Monsieur le docteur Holliday, monsieur Alban Maurice. » Le docteur reconnut l'homme dont le chapeau de feutre et la barbe bouclée lui avaient fort déplu. Il n'en salua pas moins très courtoisement Alban. Cette Mistress Rook était l'ancienne aubergiste de Zealand. Dans les motifs de l'aversion qu'elle inspirait à M. Maurice, s'en trouvait-il un qui se reliât au crime commis chez elle et qui, par conséquent, fut de nature à troubler le repos d'Émilie si elle venait à le connaître? Il n'était pas mauvais de savoir ce qu'était ce monsieur Maurice.
« Je suis heureux de faire votre connaissance, monsieur, » dit-il en s'inclinant.
« Vous êtes bien bon, docteur Holliday. »
Après cet échange de banalités polies, Alban se rapprocha d'Émilie pour lui dire adieu. Il regrettait de lui avoir parlé avec impatience, il désirait de tout son cœur ne point la laisser sous une impression déplaisante.
« Me gardez-vous rancune ? » fit-il. Ce fut tout ce qu'il osa dire en présence d'un étranger.
« Non, » répondit-elle froidement.
« Voudriez-vous bien réfléchir encore avant d'agir ?»«
Certainement, monsieur Maurice, mais cela ne changera rien au résultat. »
Le docteur, qui les écoutait, fronça les sourcils. Sur quel objet étaient-ils en désaccord ? Sur quel point Émilie refusait-elle de céder ? Ce fut Alban qui rendit les armes.
« Vous verrai-je demain au British Museum ? » dit-il.
« Oui, je pense, à moins que je ne sois retenu à la maison. »
Les sourcils du docteur exprimaient une désapprobation de plus en plus marquée. Que signifiait ce rendez-vous proposé ? Et pourquoi au muséum ? Après le départ d'Alban, le docteur demeura debout, irrésolu. Puis, se décidant tout d'un coup, il se tourna vers Émilie.
« Ma chère enfant, je vous apporte des nouvelles qui vous étonneront. Avec qui pensez-vous que je viens de causer ?
Avec Mistress Elmother. Ne m'interrompez pas. » Elle s'est mise en tête de rentrer en service. Sa vie oisive l'ennuie, dit-elle. Elle me demandait donc de l'autoriser à donner mon nom comme référence.
Avez-vous consenti?
Si j'avais consenti, il eût fallu raconter dans quelles circonstances elle avait quitté sa dernière place. Il eût fallu mentir ou déclarer qu'elle avait abandonné sa maîtresse mourante. Je le lui ai dit nettement et elle est sortie sans ajouter un mot. Au cas où elle s'adresserait à vous, faites-lui la même réponse, ou bien refusez de la recevoir, ce qui serait mieux encore.
Et pourquoi refuserais-je de la recevoir?
Mais à cause de sa conduite envers votre tante, naturellement.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, ma chère Émilie, je suis fort pressée. Adieu.
Les docteurs mettent à de rudes épreuves la patience de leurs plus chers amis. Ils sont toujours pressés.
Le brusque départ du médecin n'était pas fait pour calmer les nerfs irrités d'Émilie. Aussi se mit-elle, par un esprit de contradiction, à chercher des excuses à Mistress Elmother. Peut-être que la vieille bonne avait eu ses raisons et rien ne l'engagerait mieux à les expliquer qu'un accueil cordial.
« Si elle s'adresse à moi, pensa Émilie, je la recevrai certainement. »
Cette bonne résolution prise, sa pensée se reporta sur Alban. Quelques-uns des mots aigres prononcés par elle dans la chaleur de la discussion lui parurent, toute réflexion faite, fort peu justifiée, et sa conscience lui en fit des reproches. Elle essaya d'abord d'imposer silence à ce juge grondeur en rejetant tout le blâme sur Alban. Mais elle ne put y parvenir. Qu'il avait été bon et patient ! Quel mal y avait-il à ce qu'il appela Émilie ? S'il lui avait demandé la permission de lui donner son petit nom, elle ne la lui aurait point refusé. En ce moment, Alban serait revenu et lui aurait dit « Ma chère enfant, je voulais vous voir redevenue vous-même. Embrassez-moi et faisons la paix. » Aurait-elle pleuré après son départ comme elle pleurait maintenant ?